Ben non, c'est très juste. Cette femme curieuse, énergique et passionnée vous donne rendez-vous dans Charlie pour emporter. La collectionneur, les jeudis, 17h15. Vis, vis, versa, versa, versa. Ensemble, à l'écoute. Votre communauté, vos discussions. Et une animatrice près de vous. Voici Vice Versa avec Marie Chabot-Johnson. Vice Versa.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en ce vendredi avec Marie Chabot-Johnson au micro. Aujourd'hui, on a une deuxième émission de Vice Versa. Donc, la dernière fois, on a inauguré le bal, mais cette fois-ci, on va continuer dans la même veine d'avoir des sujets reliés à la diversité, à l'inclusion. Donc, on rencontre autant des gens qui font partie de la diversité artistique qu'on rencontre des personnes qui sont dans le milieu communautaire ou carrément juste des personnes de la communauté qui ont des défis et qui aiment ça nous en parler de leurs défis, mais aussi de leur résilience. Et aujourd'hui, on aura une belle histoire de résilience. Mais tout d'abord, à l'émission aujourd'hui, on va parler du fameux forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Pour ceux qui ne sont pas au courant, mais c'est le nouveau nom qu'on a donné à la mi-octobre pour l'ancienne consultation sur la discrimination systémique et le racisme au Québec. C'était un nom qui ne faisait pas vraiment l'unanimité. Donc là, on est allé dans une veine qu'on pourrait dire un peu plus positive. Il y a quand même quelques critiques au sujet. On va s'en parler par rapport à ça. On va aussi parler avec des intervenants et des intervenantes d'organismes communautaires du terrain qui organisent des consultations dans le cadre du forum. On va regarder du côté du Centre social d'aide aux immigrants qui est dans le sud-ouest de Montréal et à Verdun, et de l'organisme de promotion de la diversité dans le milieu artistique, Diversité artistique Montréal. Et en plus, on va faire le tour au théâtre avec une entrevue avec Marc-André Thibault, qui vient tout juste de lancer sa pièce Mazel Tov. Et Mazel Tov, comme le nom l'indique, ça a une histoire par rapport à la rencontre interculturelle avec la communauté juive. Mazel Tov, ça veut dire bonne chance, mais on va lui souhaiter d'ailleurs bonne chance pour sa pièce, et on va l'écouter un peu plus tard. Et pour commencer l'émission, j'ai eu la chance de rencontrer une dame qui m'a vraiment inspirée ce mercredi dernier. J'allais la voir parce qu'on m'avait dit de la rencontrer. Elle pourrait devenir bénévole pour CKVL-FM et c'était dans le cadre de son processus de réintégration à l'emploi. Mais je ne m'attendais pas en arrivant là à rencontrer quelqu'un de vraiment inspirant au point de vue des difficultés personnelles qu'elle a rencontrées. Oui, il y avait des difficultés au niveau de l'emploi, mais beaucoup de difficultés personnelles. Donc, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Elda. Ça faisait 11 ans qu'elle était au Québec. Maintenant, elle a trois enfants. Trois enfants qu'elle avait avec son précédent mariage, qui sont nés en Colombie et qui sont venus avec elle. Toute la famille était venue à peu près il y a 5 ans, les 5. Et avec son mari, ils se sont séparés. Donc, c'est triste, c'est la vie, ça l'arrive. Mais à la suite de sa séparation, son ancien mari est retourné en Colombie et elle a été... c'est sûr que c'est un choc émotif quand on finit par se séparer d'un mariage, mais elle est retombée en amour avec un autre homme. Et par contre, c'était une relation qui n'était pas joyeuse tous les jours. Elle me racontait toutes ses expériences de violence physique, mentale. Et je dois avouer que j'étais assez chamboulée parce que je ne m'attendais vraiment pas à entendre ça quand je suis allée. Mais la chose qui m'a chamboulée le plus en rencontrant Elda, c'est qu'elle n'en parlait pas avec un aspect défaitiste. Elle voulait pas qu'on s'apitoie sur son sort. Vraiment, elle était positive, elle était résiliente, elle voulait tourner une autre page de sa vie. Et pour elle, parler de son expérience de violence physique et conjugale, c'était une façon de se réapproprier son histoire, puis de dire que mais elle est passée à autre chose, elle était capable de raconter son histoire sans pleurer, en étant vraiment avoir le courage de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir une entrevue qui est quand même assez longue. On parle d'une douzaine de minutes, mais c'est vraiment parce que je voulais donner la parole à cette femme-là qui a un super de beau parcours et qui maintenant, d'ailleurs, se sent prête à tourner une autre page. Elle me disait justement qu'elle a touché le plus bas des fonds, donc rien qui pourra aller plus bas que ça. Et elle me disait à quel point elle était contente. Elle remerciait les intervenants et intervenantes des organismes communautaires qui l'ont aidée, que ce soit des centres d'hébergement pour femmes battues, mais aussi des centres d'hébergement temporaires ou de longue durée. Et maintenant, elle a son propre appartement où elle vit avec ses trois filles, et c'est vraiment grâce aux organismes communautaires qu'elle peut le faire. On va l'entendre dans l'entrevue. Elda était agente psychosociale en Colombie, donc c'est pas un milieu qui lui était vraiment étranger que le milieu des organismes communautaires. Et on s'entend qu'en Colombie, avec les situations géopolitiques qu'il y a là-bas, c'est un milieu qui pourrait être quand même assez difficile. Il y a eu beaucoup de situations de guerre civile et tout, mais pourtant, ça a été plus dur en arrivant au Québec dans la situation dans laquelle elle se trouvait. Et maintenant, elle veut redonner à cette communauté-là montréalaise qui lui a permis de se relever. Et c'est un peu de ça qu'on va parler dans l'entrevue. Donc, je vous laisse à l'entrevue avec Hilda. J'espère que vous allez apprendre d'elle autant que j'ai pu en apprendre.
Mon nom, c'est Hilda Janet. Je suis d'origine colombienne. Je suis professionnelle en psychologie sociale et communautaire. Aussi, j'ai fait une technique en éducation spécialisée ici au Canada. Ça fait déjà 11 ans que j'habite ici au Canada et un an et demi ici à Montréal.
Si tu avais à te décrire dans ton fort intérieur, c'est comment tu te décrirais?
Je suis une femme très persévérante. Parmi tout mon parcours d'intégration ici au Canada, même avant de venir ici, j'ai développé quand même beaucoup de résilience. Fait que je pense que s'il y en a une chose qui me caractérise le plus, c'est ça, ma persévérance, puis je fonce toujours devant moi.
Tu me comptais comme tu as eu un long parcours qui peut être assez difficile. Maintenant, tu m'as dit que tu étais prête à tourner une autre page, donc un peu de rebâtir cette vie-là. Comment tu l'imagines? Qu'est-ce que tu voudrais qu'elle soit?
En fait, moi, je m'imagine dans un processus de construction constant, mais construire quoi? Construire ou apporter à la construction d'une communauté, d'une société plus équitable, une société plus sûre, une société qui peut donner plus d'opportunités à mes enfants. J'ai 3 filles pour lesquelles je travaille tous les jours. Je veux vraiment contribuer à la formation et construction de ces sociétés-là.
Quand on parle de Montréal, quand on parle du Québec ou du Canada, pour toi, c'est quoi être montréalaise ou être québécoise? Pourquoi cette ville-ci t'attirait particulièrement?
Particulièrement, parce que moi, j'aime déjà beaucoup les couleurs. La diversité, je pense que ça, c'est moi. Quand j'ai dû me définir en tant que personne, c'est quoi tes goûts, qu'est-ce que t'as mangé, qu'est-ce que t'as écouté, qu'est-ce que t'as fait, j'avais jamais quelque chose de spécifique à dire. Parce que j'aime tout. Puis Montréal, il m'offre tout, en fait. Tout ce que je voulais toute ma vie, c'est la vie, la liberté, le non-jugement. C'est aussi les opportunités qu'on a ici. C'est sûr qu'on doit chercher comme partout, mais Montréal, c'est une ville très vivante. C'est une ville qui offre beaucoup de couleurs aussi. C'est une ville qui offre beaucoup de... C'est comme avoir tout l'accès ou l'accès à tous les pays dans un seul endroit. Ça, c'est Montréal. Et j'adore ça.
Plus précisément, tu es tombée en amour maintenant avec l'arrondissement du Sud-Ouest, un peu le quartier de Petite-Bourgogne. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement de ce quartier-là?
La Petite-Bourgogne, surtout. La Petite-Bourgogne, Pointe-Saint-Charles, c'est un quartier avec beaucoup d'histoire. Et j'adore ça. Il y en a quelque chose qui s'est passé ici qui mérite la peine d'aller découvrir et de vivre aussi, parce qu'on le sent maintenant. C'est aussi ce côté bohème. Il y a un côté vraiment mystique dans le sud-ouest. C'est vraiment comme être dans une autre partie de la planète, disons. Et en parlant de services, en parlant des organismes, en parlant de tout le système d'aide communautaire ou d'aide aux femmes, j'ai trouvé ici vraiment un bel accompagnement.
Mais ça fait 11 ans maintenant que tu es arrivée au Québec. Un parcours qui peut être marqué par plusieurs choses, un retour aux études entre autres. Pour des personnes qui arrivent de l'étranger ou même encore des personnes ici qui n'ont jamais eu à vivre le parcours de migration, d'abord à partir de son pays natal pour essayer de se construire une autre vie, qu'est-ce que tu leur dirais?
Peu importe que tu veux entreprendre dans ta vie, il faut que tu sois organisé, de un. De deux, que tu saches exactement qu'est-ce que tu veux faire, où est-ce que tu veux t'en aller. Tu ne peux pas tomber en parachute et dire « Ok, je suis là, à partir de là, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. » Il y en a beaucoup de choses que tu dois découvrir. Tu dois aller chercher, regarder spécifiquement c'est quoi les options. Oui, mais tu dois avoir un plan. Si tu viens, si tu es dans un autre pays, mettons des personnes qui sont chez nous, qui veulent venir ici, il faut qu'ils connaissent exactement comment ça marche ici, c'est quoi ces cultures-là. Aller plus approfondi au-delà des médias, par exemple, ou au-delà pas de construire ou de fuir certaines situations chez soi. Parce que peu importe où tu t'en vas, il y en aura des situations difficiles à affronter. Il y en aura aussi de belles choses à découvrir. Mais surtout, sois sûr de toi-même, persévérant, organisé, puis avoir un but. Et ça va te permettre de savoir exactement où aller chercher ce que tu as besoin.
Toi-même, tu as vécu quelques obstacles en arrivant, comme on en vit tous quand on fait le processus de migration. Qu'est-ce qui fait vraiment que tu crois que tu as été capable d'aller au-dessus de ces obstacles-là, puis de continuer encore aujourd'hui à essayer de monter au-dessus de ces obstacles-là?
C'est surmonter le manque de confiance en soi ou en moi. Ça a commencé avec le français. Quand je commençais à étudier le français, même quand j'étais à l'école chez moi en Colombie, j'avais le choix de français ou anglais. J'ai choisi l'anglais. Mais j'ai jamais imaginé venir dans une province où on parle français. Alors, j'étais forcée à parler français. Je l'ai appris, mais toujours avec... J'étais pas très sûre de moi, de mon accent. Est-ce que je prononce bien mes mots? Est-ce que je devrais modifier ci, modifier ça? Est-ce que je vais être capable de m'adapter? Est-ce qu'ils vont être capables de comprendre ce que je dis? Ça, c'est un de mes plus grands obstacles au début. Mais pourquoi j'ai parlé tantôt de l'estime de soi? C'est parce qu'une fois que tu es sûr de toi-même, et une fois que tu es capable de surmonter ça, le reste, ça vient automatiquement. Si je suis capable de dire, il n'y a pas de problème, tu peux nommer certains mots pas de la bonne façon, c'est pas grave, tu peux recommencer, tu vas faire bien la prochaine fois. J'ai décidé à un moment donné de pas changer mon accent, je me suis dit, c'est l'autre-là, je ne le fais pas, parce que ça ne va rien donner. Ben, j'ai un bon accent, j'ai un accent assez marqué, je suis latino, alors que je profite de ça. Puis je me fais dire un bon accent, un très joli accent. C'est parce que ça vient de ma communauté. Puis on parle le français comme ça. Après ça, d'autres obstacles que j'ai vus vraiment, c'est de percer le marché du travail en tant que femme migrante et en tant que femme monoparentale. C'est un gros défi, énormément grand. Mais comme je vous ai dit, quand tu as un objectif clair, tu es capable d'aller chercher l'aide. Tu es capable d'aller chercher où est-ce que tu peux trouver les subtils. Il faut vraiment se donner le temps de penser, de réfléchir et de faire un pas en arrière et dire, OK, je peux planifier ma vie, je peux continuer. Je peux me tromper, je peux changer d'idée au cours de route, je peux modifier certaines choses dans mon projet de vie, mais l'important, c'est de continuer à être persévérant et constant.
Je mettrai ma main au feu que c'est une valeur que vous voulez essayer d'inculquer aussi à vos trois filles. Là, on parle d'obstacles, on parle du parcours de migration, mais si on regarde un peu du côté positif, qu'est-ce qui fait qu'encore aujourd'hui, vous avez continué à vouloir rester ici? Qu'est-ce que le Québec vous a apporté à quelque part?
Pourquoi j'ai resté au Québec? De un, c'est la liberté des droits. Je me sens ici libre de m'exprimer. Je me sens libre de développer mes compétences et mes habiletés, tant personnelles comme professionnelles. Je me sens en sécurité. Je me sens bien entourée pour le gouvernement. Je me sens bien entourée pour tous les organismes qui travaillent en pro de l'intégration des immigrants et surtout des femmes. Le Québec, c'est une province, et aussi le Canada, c'est un pays très organisé. Vous êtes un peuple organisé. Et je peux dire aussi le Canada, le Québec surtout, il y en a beaucoup de choses à offrir. On a beaucoup de choses à faire ici. Et j'ai toutes les possibilités de faire quelque chose avec ma vie et avec ce que j'ai planifié comme projet. Mais au-delà de toutes les situations personnelles, au-delà de notre capacité émotionnelle et psychologique, le Québec, il nous donne des outils pour bâtir une belle vie ici. C'est juste apprendre à dealer ou travailler avec les différents petits obstacles, comme on a parlé. Parfois, on ne comprend pas très bien le système, comment ça marche. Des fois, on ne comprend pas où est-ce qu'on va chercher l'aide. Parfois, on ne comprend pas mon orientation professionnelle, où est-ce que je peux la mettre en place. Ça, je dirais que c'est des obstacles qu'on trouve, mais qu'on trouve ailleurs aussi. Quand j'étais petit, mon père, ma grand-maman disaient, peu importe où tu vas t'en aller, peu importe dans quel pays, riche ou pauvre, tu vas trouver des obstacles, tu vas trouver des difficultés, mais aussi, si tu es capable, tu vas trouver des bonnes choses, de des possibilités de bâtir une belle vie. On vient pas ici au Canada pour avoir une maison à 3 millions de dollars, un auto à 300 000, 400 000 dollars. C'est un rêve, oui, c'est des objectifs, oui, mais la vie, on la vit pendant le processus de construire quelque chose. C'est ça la différence. Tu ne gaspilles pas ta vie en atteignant un objectif, tu vis ta vie pendant le chemin. C'est ça la vie. Alors le Québec m'offre ça, que maintenant, malgré toutes les difficultés et tous les obstacles que j'ai dû surmonter depuis mon arrivée au Québec, là, je commence à toucher un peu mon rêve d'être une femme impliquée dans la communauté, mon rêve d'être une femme, d'apporter mes connaissances professionnelles, mon background, tout ce que j'ai vécu en Colombie, tout ce que j'ai vécu ici pendant ces 11 années. Je touche enfin un petit peu le rêve de construire une société de rêve pour moi, pour mes filles et pour tous les gens qui sont autour de moi aussi.
Et elle ressemblerait à quoi cette société rêvée?
Une société un peu tous participer de un. Une société un peu apprendre à communiquer. C'est sûr qu'en tant qu'être humain, on a tous des façons différentes, on a tous des désirs différents. Je suis convaincue qu'on peut avoir une communauté où on peut avoir la convivialité, le respect, l'aide. On peut s'aider de mille façons. Une société qui permet de développer les talents de ses membres, les capacités professionnelles, les capacités personnelles, que tu puisses, peu importe quoi c'est, soit ton talent, que tu puisses le mettre en fonction de construire et de bâtir ta vie, puis aussi en fonction de garantir. Je rêve beaucoup une société où mes enfants sont capables de dire c'est ça que j'ai décidé de faire et je m'en aille là-dedans. Et qu'elle peut trouver pendant le chemin les outils nécessaires pour s'en aller où est-ce qu'ils veulent s'en aller. C'est pas une société parfaite parce qu'il y en a des choses qui, sûrement en tant qu'être humain, on va s'amuser à défaire, mais ces sociétés on peut être tranquille, rêver et croire qu'on peut faire. Parce que malgré qu'à ce moment-là, je n'ai pas une stabilité laborale, je n'ai pas mon emploi que je peux écrire sur un papier, c'est ça mon emploi, mais non, plutôt, je sais qu'à mon expérience de vie, avec mon expérience de vie, j'ai prouvé qu'on est capable. Que le gouvernement du Québec, que le arrondissement du sud-ouest de Montréal, ils ont tous les moyens pour qu'on puisse s'en sortir. J'ai eu tous les éléments pour m'en sortir et je suis en train de m'en sortir. Sous cette terre, partout c'est la rage qui monte. C'est fou ce qu'on raconte. Trop d'estomac qui gronde, des bombes qui tombent sur un des innocents, 100 000 à la ronde. De la guerre à la pollution, du nombre à véritable compte. Du monde ferait retourner nos ancêtres dans leur tombe. Et nous, nous essayons de vivre sans trop y penser. Nous avons tendance à nous dire que Dieu nous a abandonnés. Mais c'est plutôt le contraire qui arrive. Nous sommes les seuls à blâmer. Alors avant de s'autodétruire, avant d'y passer, pour ne pas recommencer à prier. Fouiller, quand je voyage d'une ville à l'autre, je vois des gens dont la vie est morose. Essayons de remplir cette fosse qui sépare de cette chose qu'on appelle le bonheur avant que la terre explose. Quand je regarde d'une vie à l'autre, je vois que les gens cherchent toujours la même chose. En quête de la vérité, ne sachant où regarder, fouillant sans cesse à droite et à gauche, avant que la planète saute. Oh, oui. De plus en plus charnel, de moins en moins spirituel, de moins en moins réel, de plus en plus artificiel. Le monde mène leur petite vie sans se soucier de l'éternel. Pourtant, c'est un truc de gratuit. C'est l'étiquette pour le ciel. Nous savons tous que la vie de nos enfants est pécaire. Nous faisons tout pour détériorer la terre. Nous ne pouvons échapper au destin. Nous avons l'impression de rechercher en vain comment se sortir de ce pétrin. Mais faut pas se décourager. Surtout l'importance de ne pas laisser tomber. Faut surtout pas baisser les bras. Faut éviter de sombrer dans le désespoir. En vérité, il y a de l'espoir pour tous ceux qui veulent bien croire. À l'éternité qui mettra tout son cœur sera récompensé. Car il y a bien quelqu'un qui est là pour nous sauver. Mais ça c'est le sujet de notre histoire qu'un jour je chanterai. Quand je voyage d'une ville à l'autre, je vois des gens dont la vie est morose. Essayons de remplir cette fosse qui sépare de cette chose qu'on appelle le bonheur avant que la terre explose. Quand je regarde une vie à l'autre,
cherche toujours la même chose. En quête de la vérité, ne sachant où regarder, fouillant sans cesse à droite et à gauche, avant que la planète saute en mille morceaux. Oh, 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 oui. En mille morceaux. Oui, 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 oui.
C'était d'une ville à l'autre de Shawit. Et comme vous avez pu le remarquer, la chanson est un petit peu... elle a démarré un peu trop tôt à notre goût. Hein. Ça l'a fini par couper un peu les derniers mots de Elda. Donc finalement, qu'est-ce qu'elle disait? C'est qu'elle a vraiment confiance qu'elle va pouvoir se bâtir une vie à Montréal et dans l'arrondissement du Sud-Ouest et qu'on lui a vraiment donné les moyens pour qu'elle puisse se construire cette vie-là puis qu'elle sent que c'est ça qu'elle est en train de faire maintenant et qu'elle peut profiter des opportunités qu'on lui a données. Donc je la remercie encore beaucoup pour... toute son ouverture, en fait, son ouverture à parler de son histoire. Je pense vraiment qu'elle a aimé le fait de pouvoir se réapproprier. En tout cas, c'est ça qu'elle me disait, d'ailleurs, pendant que je partais. Donc, on écoutait Shawit. Et Shawit, en fait, j'ai pas mis ça pour rien. La chanson, c'est un artiste innu qui a vraiment été très reconnu dans le dernier gala pour récompenser les meilleurs artistes de musique autochtone. Et on disait, justement, à la radio CKVL, qu'il y avait, parmi les finalistes du gala de la musique autochtones, on connaissait beaucoup, en fait, on connaissait peu de noms, mais il y avait beaucoup, beaucoup de chansons qui étaient super intéressantes. D'ailleurs, le Shawit, en ce moment, chantait en français, mais il y a beaucoup de ses chansons qu'il va chanter directement dans sa langue natale. On l'a eu, justement, en entrevue il y a quelques semaines avec Marilyn à l'émission du matin, M le matin, qui est diffusée du lundi au vendredi de 6h à 10h. Donc, si jamais vous voulez découvrir d'autres artistes comme lui, écoutez nos émissions le matin avec Marilyn ou encore l'après-midi avec Charlie pour emporter. D'ailleurs, Charlie, qui voulait que je précise que c'était un peu son erreur d'avoir mis les deux chansons et non la mienne, mais je ne pourrais pas survivre cette émission sans elle qui fait la technique. Donc merci Charlie de faire la technique en plus de ta charge d'émission de l'après-midi et de directrice musicale. Tu es une femme en or. Et maintenant, passons à un autre segment de l'émission. On va parler un peu avec Marc-André Thibault, qui est l'auteur de la pièce Mazel Tov, qui a démarré au début de la semaine, mardi, au Théâtre Prospero, et que vous avez encore la chance de voir jusqu'au 9 décembre au Théâtre Prospero. Mais la pièce est mise en scène par le Théâtre Bistouri. Des fois, ça peut être mélangeant, hein, parce on parle de deux théâtres, mais en fait, c'est qu'il y en a un qui est l'installation. Donc, le Théâtre Prospero, c'est l'installation. Théâtre Bistouri, c'est la compagnie. Moi, en fait, au début, qui n'était pas très familière avec le monde du théâtre, je me mélangeais un petit peu. Mais ensemble, on a parlé un peu des idées qui étaient derrière la pièce. La pièce s'appelle Mazel Tov. Mazel Tov, c'est une expression en hébreu qui veut dire bonne chance. C'est aussi ça qu'on dit après qu'on se soit marié. Puis la pièce de théâtre tourne beaucoup autour de l'idée du mariage, surtout dans la tradition juive, puisque une des mariées, la femme, en fait, l'épouse est d'origine juive et son mari ne l'est pas, mais ils ont décidé quand même de pouvoir se marier dans la tradition juive. Et parmi les convives, il y en a un qui avait fait des gestes antisémites. Donc, on peut quand même présumer qu'il est dans une famille avec une famille d'origine juive, puis en fait, n'importe laquelle, des gestes antisémites, bien, ça fait réagir assez fortement. Et c'est un peu l'occasion de pouvoir parler de thèmes comme le racisme, l'amitié et justement l'aspect de couple interculturel. Et c'est de ça qu'on a parlé avec Marc-André Thibault. Donc, je vous laisse entendre notre entrevue qu'on a réalisée au début de la semaine.
Bonjour, je m'appelle Marc-André Thibault, je suis l'auteur et le metteur en scène de Mazel Tov qui est présenté au Théâtre Prospero.
Donc la prémisse, on parle d'un couple interculturel, donc Isabelle est juive, Patrick ne l'est pas, et la pièce commence quand ils se marient et quand le meilleur ami de Patrick pose des gestes qu'on pourrait qualifier d'antisémites. Donc c'est sûr que dans une famille juive, ça réagit fortement, on parle de colère, on parle de drame, puis c'est à partir de ça que la pièce commence. D'où était venue l'idée à la base d'avoir un couple interculturel?
J'avais envie, et j'aime toujours mettre mes personnages sous tension, fait que dès le départ, j'ai eu ce flash-là de dire on va parler de cette ligne-là, de cette différence. J'avais envie de partir aussi de la tradition de briser un verre dans un mariage juif. C'est une tradition que chez les chrétiens catholiques, on connaît tellement, et à quel point justement on peut virer là-dessus puis s'amuser en fait dans la comédie noire.
Et au niveau du travail de recherche, qu'est-ce que vous avez fait pour mieux comprendre les traditions juives, surtout par rapport au mariage?
J'avais déjà travaillé sur un spectacle en 2011 qui s'appelait Tranché de l'Israélien Hanoch Levin. Et j'avais déjà fait beaucoup de recherches, j'avais appris. Et par la suite, j'ai tourné dans les écoles un spectacle avec une gang juive sur lequel j'ai beaucoup appris sur la Deuxième Guerre mondiale et tout ça. Donc, j'avais déjà un intérêt. Puis après ça, j'ai simplement poussé.
On parle de plus en plus de l'art dans une perspective de médiation culturelle. Et mon premier réflexe, quand j'ai vu le synopsis de la pièce et aussi la bande-annonce qu'on mettra sur la page Facebook de CKVL, ça a été de me demander justement comment cette pièce-là pourrait être utilisée dans les écoles ou autres pour essayer d'entamer une réflexion sur les relations interculturelles. Donc, je me demandais, c'est quoi vos intentions pour la pièce? Est-ce que vous considérez l'utiliser dans cette perspective-là?
De provoquer des discussions chez les spectateurs. Moi, je suis pas un grand fan de morale, par exemple. Je fais toujours attention pour pas tomber dans un ton moralisateur. Donc, j'ai l'impression qu'en montrant des chocs culturels, puis en montrant des façons où ça s'envenime ou des façons où ça se règle, les gens sont assez intelligents après ça pour faire les liens. On n'a pas besoin de dire de faire un résumé après ça puis de faire un happy ending. On a déjà la chance d'avoir plusieurs groupes scolaires, c'est surtout fin secondaire et cégep, qui viennent assister au spectacle. La pièce est qualifiée d'environ 15 ans et plus, donc c'est sûr que c'est plus à partir de cet âge-là que les thèmes vont leur parler.
La pièce est qualifiée de comédie noire. Pour les gens qui sont moins familiers avec le terme, ça pourrait faire un petit peu peur quand on entend le terme le comédie noire. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est censé justement jouer sur ces différentes cordes-là. La comédie noire, ce qui est plaisant, c'est qu'on rit de choses qui sont pas drôles généralement, mais à cause du contexte, à cause des malaises que ça crée entre les personnages, à cause des situations, des chocs que ça provoque, la situation devient drôle. Donc, moi, j'adore ça quand un spectateur vient nous voir après et nous dit « j'ai ri, mais je me sentais un peu mal de rire ». À partir du moment où on réussit à faire rire et à émouvoir un spectateur, je pense que c'est quand même ça veut dire beaucoup sur le fait qu'on a réussi à l'embarquer avec nous.
Pour conclure un peu, parmi tous les divertissements qui existent, pourquoi nos auditeurs et auditrices devraient venir voir la pièce Mazel-Tov au Théâtre Prospero plutôt que, par exemple, rester emmitouflé en dessous des couvertures devant la télévision?
Le théâtre, en général, on a les comédiens sur scène qui vivent des émotions en temps réel. Donc, c'est sûr que c'est pas comparable avec la télévision ou le cinéma, qui sont des médiums que j'adore, mais sortir, aller dans une salle, avoir les effets d'éclairage, la musique qui tremble dedans, toute la conception, le décor, les comédiens qui sont là, le texte qui est là pour faire rire et pour provoquer des réflexions. Donc, moi, je pense que c'est un mélange de tout ça qui guide Mazel Tov et comme la bonne sortie pour vous, là.
Dès 15h, dans l'émission du retour, Céline Dion et Justin Bieber ne seront pas des invités. Mais par contre, Marc Dupré, Simon Morin et Andréanne Amalette, peut-être.
Salut, c'est Marc Dupré et j'écoute toujours CKVL.
Salut, ici Andréanne Amalette et vous écoutez le 100,1 CKVL.
Tu peux t'attendre à tout avec Charlie pour emporter. Tous les jours, du lundi au jeudi.
Tous les lundis dès 18h, chaque seconde compte. En studio, Nicolas Thibault et ses collaborateurs tenteront de classer des sujets chauds et d'autres un peu moins alarmants pour le bien de la vie humaine. Mais une chose est sûre, la pertinence sera toujours au rendez-vous. 2 heures pour tout régler, tous les lundis à compter de 18h.
Ben oui, ma petite madame, là, ben c'est sur le gaz!
Ouais,
je pense qu'il y a un faux contact.
Ça, c'est sûr, mon petit monsieur.
Chez Chevrolet Buick GMC de la salle, il n'y a pas de « ouin, ouin ». Parce que la clé de notre succès, c'est le contact avec nos clients.
Ah, ici le courant passe.
C'est l'événement Vendredi fou, et on aime ça vous en donner plus. Obtenez jusqu'à 11 500 $ en rabais cumulatif sur certains véhicules. Certaines conditions s'appliquent.
Chevrolet Buick GMC de la salle. La clé est dans le contact. gmdelasalle.ca.
Yeah. Rebonjour à tous et toutes dans l'émission de Marie Chabot-Johnson, vice-versa, qui va peut-être faire un rebranding, qui sait. Avant d'entrer en onde, juste pour dire, Charlie n'arrête pas de me dire de sourire parce que on parle de thèmes quand même assez lourds aujourd'hui, hein. On parle de couple interculturel, mais dans une comédie noire, comme Marc-André Thibault nous le disait. On a parlé du parcours de Elda après les violences conjugales. Et là, je suis désolée, mais ça va pas aller en s'améliorant. On va parler de la consultation sur le racisme systémique. En fait, je devrais dire plutôt que maintenant, elle s'appelle le Forum sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. En fait, à la mi-octobre, le ministre de l'Environnement, David Hurtel, le ministre de l'Immigration, David Hurtel, je m'excuse parce qu'avant de rentrer au poste à l'immigration, il était à l'environnement. Je suis trop habituée avec son ancien poste. En fait, il était à l'environnement jusqu'à temps qu'on ait le dernier remaniement ministériel qui a fait que notre députée de Verdun, Isabelle Melançon, est maintenant rendue à l'environnement et de la lutte au changement climatique. Mais avant, c'était David Hurtel qui maintenant est rendu au ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion. Et face aux critiques qu'on voyait par rapport à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, il y avait des histoires où que la directrice serait accusée par certains de ses anciens collègues de harcèlement psychologique. Donc, face à toutes les critiques, on a décidé un peu de faire un rebranding là, sur la commission sur le racisme systémique et en fait, sur la discrimination systémique et le racisme au Québec. Et on sentait que c'était un nom qui faisait assez peur à beaucoup de gens. On disait, la première réaction que beaucoup de personnes finissaient par avoir, ils disaient « Mais moi, je suis pas raciste. » Moi, j'en ai un ami noir, je suis pas raciste. Mais en fait, le racisme systémique, on parle pas de racisme d'une personne à personne. On dit pas d'aller taper sur votre voisin parce qu'il est pas de la même couleur de peau que vous. Là, c'est vraiment pas ça le principe. Le principe plutôt du racisme systémique, c'est que même si entre individus, on se traite de façon toute égale, en fait, c'est que les institutions peuvent en favoriser certains plus que d'autres. Donc, on pourrait voir, par exemple, qu'il y a des situations qu'on pourrait juger comme étant objectives, mais qui défavorisent une classe de citoyens plutôt qu'une autre parce que finalement les moyens qu'on emploie sont moins adaptés pour eux. On parle entre autres de ça, mais on parle aussi dans plusieurs industries d'une sous-représentation de la diversité. Donc on va en parler dans les entrevues qui vont suivre, mais tu sais, on parle par exemple au dernier gala des Oscars, on parlait beaucoup dans les dernières années, on parle beaucoup de la sous-représentation des acteurs de couleur ou des réalisateurs de couleur. En fait, on se rend compte que c'est pas mal blanc les Oscars. Il y avait le hashtag, le mot-clic Oscar so white. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça venait de dire? C'est que malgré le fait que l'industrie est diversifiée, malgré le fait que la population est diversifiée, mais dans les instances de reconnaissance, de prix, ben finalement, c'est toujours les mêmes personnes qui gagnent. C'est très homogène. Et ça, c'est des discours et c'est des enjeux qu'on va discuter beaucoup pendant le forum, en fait. Et au cours du forum, le ministère de l'Immigration, de la diversité et de l'inclusion, qu'on appelle aussi communément le MIDI, à cause de ses initiales dans le milieu. Donc, parfois, vous allez entendre certains intervenants qui vont l'appeler le MIDI directement, mais qu'on fait référence vraiment au ministère de l'Immigration. Il y a 31 organismes qui ont été mandatés pour la consultation, pour aller directement rencontrer les communautés sur le terrain, pour rencontrer sur des enjeux larges ou spécifiques et ramener, dans le fond, les impressions de la plupart des citoyens et citoyennes dans le cadre de mémoire pour la commission. Et la première personne avec qui on va parler, qui est en fait M. Martin Savard du Centre social d'aide aux immigrants, d'où l'abréviation le CSAI, qui a pignon sur rue sur la rue Wellington à Verdun et sur la rue Laurando dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Eh bien, eux, le CSAI, c'est un organisme qui font une consultation publique. La consultation va durer, dans le fond, toute la journée mardi prochain et on a discuté un peu plus avec lui pour avoir les détails. Et après, vous allez entendre Nadia Agi, qui est en fait de Diversité artistique Montréal, qui, eux, ont décidé de ne pas s'inscrire dans le cadre du forum, mais de faire leur propre consultation. Et ils ont continué d'appeler ça sur le racisme systémique, parce qu'ils disaient que, justement, changer de terme pour parler de la valorisation de la diversité, bien, c'est éviter le problème. C'est de dire, on valorise la diversité, mais on reconnaît pas qu'il y a un problème systémique qui défavorise les personnes issues de la diversité, puis qui continuent de faire qu'ils vont être sous-représentés dans le milieu culturel et médiatique. Donc, eux tiennent leur propre consultation et ils vont la tenir, en fait, du début, en fait, depuis la semaine dernière jusqu'au mois d'avril. Donc, il y aura plusieurs événements et dans les deux cas, il y a la possibilité aussi de donner des témoignages en ligne. Et donc, en fond, on s'est entretenu avec les deux par rapport aux futures consultations. Je vous permets d'entendre ça maintenant. La première entrevue est avec Martin Savard du Centre social d'aide aux immigrants et la deuxième avec Nadia Agi de Diversité artistique Montréal.
Mon nom est Martin Savard, je suis conseiller en emploi et chargé de projet pour le Centre social d'aide aux immigrants.
Pouvez-vous juste me parler un peu de la consultation que vous allez mener mardi prochain?
Le Centre social d'aide aux immigrants a reçu le mandat du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion de faire une consultation locale qui porte sur la valorisation de la diversité et la lutte contre la discrimination. Il y a plusieurs organismes au Québec qui ont reçu ce mandat-là, dont le CSAI, qui va donc faire une consultation donc en deux volets. Une partie de cette consultation-là est en ligne. Les gens peuvent faire des témoignages en ligne, les personnes qui estiment avoir été victimes de discrimination. Ils peuvent remplir un formulaire qu'on a mis sur notre site Internet. Et aussi, on invite les gens à participer à une journée de réflexion qui va avoir lieu mardi le 28 novembre au Centre Saint-Pierre, où il va y avoir d'abord un panel pendant lequel on va discuter de certains thèmes liés à la discrimination. Il va y avoir des ateliers pendant lesquels les gens vont pouvoir partager des témoignages et ça va nous permettre de mieux connaître les divers visages que peut prendre la discrimination à Montréal. Également, on va avoir des ateliers qui vont porter sur les pistes de solutions parce qu'un des intérêts de la démarche qu'on propose, c'est de trouver collectivement des solutions pour lutter contre la discrimination.
La commission elle a changé de nom maintenant, mais pour les gens qui ne sont pas familiers avec le concept de racisme systémique. Je me demandais si vous pourriez juste le vulgariser en quelques phrases pour qu'on comprenne un peu plus le concept.
Effectivement, notre consultation, ainsi que celle du gouvernement, ne s'intéressera pas au racisme qu'on peut croiser dans la rue entre deux individus, mais surtout à la discrimination systémique. Rapidement, ça découle de politiques, de pratiques ou même de comportements sociaux ou administratifs qui perpétue une situation qui désavantage certains groupes de la société. C'est une forme de discrimination qui peut être involontaire, parfois même inconsciente. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, lorsqu'une personne est à la recherche de logement, on va lui demander d'avoir une histoire de crédit. Pour des réfugiés qui arrivent ici, c'est sûr qu'ils n'ont pas une histoire de crédit. Donc, c'est un obstacle supplémentaire à la recherche d'un logement. On comprend les propriétaires d'exiger ça parce qu'ils souhaitent que leur loyer soit payé, mais pour les réfugiés, ça peut être un obstacle majeur. Donc, c'est un exemple où quand un employeur exige une expérience canadienne à des nouveaux arrivants, ou également lorsque, pour certaines démarches administratives, on exige certains types de documents, ça peut poser des problèmes pour des gens qui arrivent d'un pays en guerre où les documents sont absolument inaccessibles. Donc, ce sont quelques exemples. Là, je prétends surtout pas être exhaustif de discrimination systémique.
Mais merci d'avoir donné des exemples. C'est exactement ce que j'allais vous demander à la suite, parce que souvent, on parle de concepts, on a de la difficulté à mettre un exemple concret, vu qu'il y a beaucoup de gens, en fait, la majorité de la population au Québec reste non victime de discrimination. On ne se rend pas toujours compte de la façon de laquelle ça se perpétue parce que c'est plus invisible à l'œil inexpérimenté.
Tout à fait.
À ce moment-là, je me demanderais qu'est-ce qu'on peut faire? On parle de pistes de solution des fois qui sont dirigées vers le gouvernement. Et en tant que citoyen, comment est-ce qu'on peut aider à pousser ces dossiers-là puis comment on peut aider à essayer de réduire la discrimination dans notre quotidien?
Quand on parle de discrimination systémique, bon, c'est sûr que le forum, un des objectifs, c'est de trouver des solutions. Mais si on reprend quelques-uns des exemples que je viens de mentionner, des solutions qui pourraient être possibles. Lorsqu'un organisme gouvernemental, par exemple, exige certains types de documents, c'est toujours mettre en place une approche alternative pour des gens qui ne peuvent pas présenter ces documents-là. D'ailleurs, récemment, les autres professionnels, on leur a demandé d'adopter cette pratique-là. Pour les personnes qui ne peuvent pas présenter certains types de documents, ils doivent mettre en place des démarches alternatives. Donc, on pourrait demander ça à d'autres organismes. On pourrait également demander ça à d'autres organismes pour ce type de problème-là. Il pourrait y avoir la même chose pour l'histoire de crédit pour un logement ou que les employeurs cessent d'exiger une expérience canadienne. Donc, c'est toujours une sorte de petite solution. Mais si vous me demandez qu'est-ce que chaque citoyen peut faire, il peut se questionner sur certains de ses comportements sociaux, sa façon de réseauter. Parce qu'une autre difficulté pour les personnes immigrantes qui cherchent un emploi, c'est l'absence de réseau. Est-ce que notre façon de réseauter, on exclut certaines personnes de nos réseaux qui pourraient, s'ils étaient partis de ce réseau-là, avoir un emploi? C'est le genre de question qu'on peut se poser.
Vous me parlez, ça me fait réfléchir. Donc, des fois, je suis pas en train de réfléchir à ma prochaine question. Je suis justement absorbée parce que, justement, c'est, moi, dans le cadre de mon travail, je fais aussi des capsules éducatives qu'on traduit dans plusieurs langues, justement, avec des traducteurs ou quoi, avec des gens qui sont en processus de francisation. Ça résonne beaucoup parce que dans les derniers temps, je me suis rendu compte que, malgré moi, je me rends compte que nos réseaux sont très homogènes. En tout cas, pour certaines personnes, je voudrais pas le dire pour tout le monde, mais en tout cas, je me suis rendu compte que mon réseau était très homogène et je me demandais moi-même comment je pouvais le faire pour que mon réseau soit moins homogène et que je sois plus confrontée à des réalités qui sont loin de la mienne, aider à être plus conscientisée dans mon quotidien, mais aussi dans le quotidien de mes proches. Donc.
Si tout le monde se posait la même question, on avancerait beaucoup.
Pour les gens qui étaient intéressés à venir mardi, on parle du Centre Saint-Pierre. Vous m'avez parlé de la journée. Est-ce que à quelle heure ça commence, en fait?
La journée commence à 9h. On commence à accueillir les participants vers 8h30. Mais pour avoir toute l'information, je vous suggère d'aller sur notre site internet, centrecsai.org, et là vous pourrez vous inscrire en ligne et vous pourrez également, si vous souhaitez, partager un témoignage d'une expérience de discrimination. Évidemment, ça reste confidentiel et ça aussi, ça va beaucoup nous aider parce qu'avec les résultats de cette consultation et de la journée de réflexion, nous allons produire un rapport qu'on va présenter au gouvernement, bien sûr, mais qu'on va également diffuser, et on espère que c'est pour nous seulement une première étape avant d'aller plus loin pour proposer des solutions à la discrimination.
Et d'ailleurs, vous êtes impliqué dans le domaine depuis longtemps. Je veux dire, le centre est impliqué dans la question depuis sa fondation. Vous qui avez d'ailleurs pignon sur rue à Verdun et dans l'arrondissement du Sud-Ouest. Moi, on m'a parlé que le CSAI donnait beaucoup d'aide justement directement avec les populations touchées. Vous avez mis en place aussi des projets par rapport à plusieurs vagues de réfugiés qui sont arrivés au Canada. Ça inclut aussi des cours de français.
On offre également des services en employabilité et des ateliers ou des rencontres individuelles. C'est ça. Beaucoup de services qui sont offerts à la clientèle immigrante.
Pour la consultation de mardi prochain, est-ce que, par curiosité, est-ce qu'il faut nécessairement avoir vécu de la discrimination? Est-ce qu'il faut être issu de minorité ou est-ce que tout le monde peut venir? Ou est-ce qu'on considère ça plus aussi comme ce qu'on appelle un safe space pour être capable de parler librement sans avoir peur de l'environnement dans lequel on se trouve?
Non, on ouvre la journée de réflexion à tous ceux qui sont intéressés par la question, que ce soit des personnes victimes de discrimination, des intervenants, des universitaires, des chercheurs, des étudiants. Alors, tous sont bienvenus. Les gens qui le souhaitent peuvent s'inscrire avec un pseudonyme s'ils souhaitent rester anonyme. Et tout ce qui va se dire pendant la journée de consultation également s'engage à garder tous les renseignements personnels confidentiels.
Je suis Nadia Agi, chargée de recherche à Diversité artistique Montréal, DAM.
Vous menez présentement une grande période de consultation à travers la société civile et ailleurs, des milieux artistiques. Ça s'étale sur plusieurs mois. En quoi consiste la consultation sur le racisme systémique dans le milieu culturel et médiatique?
Alors, la consultation sur le racisme systémique se fait par Diversité artistique Montréal de façon indépendante. Il y a eu un appel de la part du gouvernement, du Midi notamment, pour faire une consultation sur le racisme systémique. Ça remonte assez tôt. La consultation sur le racisme systémique de DAM va se faire de façon indépendante à celle du gouvernement, qui va continuer avec le forum sur la valorisation de la diversité. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est une consultation sur le racisme systémique dans le milieu médiatique et artistique et culturel, avec des artistes, des travailleurs et travailleuses culturelles, un comité de diversité également, des citoyens qui ne sont pas forcément dans le milieu culturel et médiatique, mais par contre qui seraient intéressés à nous parler de leur expérience dans le milieu et également de leur vision de la représentativité des minorités ethnoculturelles, des personnes racisées de façon générale, mais également avec des étudiants et des étudiantes qui sont dans le milieu. C'est une consultation qui va durer, qui a déjà commencé au mois de novembre, donc il y a une semaine déjà, et qui va se poursuivre jusqu'à jusqu'au mois d'avril. De cette façon, on va faire trois catégories en fait pour recueillir des témoignages. On va avoir des groupes de discussion, ce sont ceux qui sont déjà en cours, qui se font à huis clos. On a également une audition publique présentée devant un comité qui va être là pour écouter les témoignages des personnes, et également des rencontres individuelles où, comme chargée de recherche, je vais aller essayer de trouver les bonnes personnes pour compléter les différents témoignages que j'ai déjà eus pour avoir une vue d'ensemble. À la fin de la consultation, il va y avoir une journée présentation du rapport final qui va être dévoilé au grand public pour présenter les résultats de la consultation. Et puis également, on va remettre ce rapport-là à la CDPDG, justement, qui travaille déjà sur la question de la discrimination systémique et le racisme.
Pour les personnes qui sont moins familières avec le concept de discrimination raciale, par exemple, je sais que vous en êtes seulement au tout début des consultations. Pour donner un exemple peut-être à des personnes qui ont moins une idée de comment ça se traduit, comment la discrimination raciale se traduit dans le milieu de la culture et dans le milieu des médias, à votre avis?
Oui, alors ça peut prendre différentes formes. Justement, quand on parle de racisme systémique, ce n'est pas toujours un racisme qui va être voyant, qui va être perceptible par la personne qui va le vivre. C'est des fois des témoignages qui vont s'ajouter les uns aux autres, qui vont permettre de déceler de façon concrète qu'il y a une certaine discrimination. Ça peut être, par exemple, au niveau de certains galas où on ne va pas forcément voir des personnes racisées se présenter sur scène, parce que peut-être que le jury n'est pas non plus composé de personnes racisées également. Et donc, c'est une roue, au final, qui s'alimente et, finalement, qui donne lieu à une certaine sous-représentation. Également, au niveau des quelque chose de peut-être plus ordinaire, des fois, on va demander concrètement à des artistes ou à des présentateurs de radio ou à la télévision de changer, par exemple, le nom de famille ou encore l'accent pour que ça soit peut-être plus québécois. Et donc, de cette façon-là, on va invisibiliser la différence. Donc ça fait partie des choses que l'on retrouve dans le milieu médiatique et culturel.
Tout à fait. Et cette homogénéité-là qu'on peut voir dans le milieu culturel et médiatique, on peut la compter probablement à travers les instances publiques, à travers les instances communautaires. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, en tant que citoyen et citoyenne?
Alors, en tant que citoyen et citoyenne, déjà, au niveau de la consultation que nous, on présente, on invite des citoyens qui ne sont pas forcément dans le milieu médiatique ou culturel, mais qui voudraient justement se prononcer sur cette question-là de sous-représentativité, qu'on retrouve aussi bien dans les arts, dans le théâtre, à la télévision, dans les films, dans les séries qu'on nous présente à la télévision, panoplie de présentateurs, par exemple, qu'on va retrouver, ou également de journalistes dans les médias qui vont être davantage blancs que racisés. Donc ça, c'est une façon aussi de participer à la consultation, de le montrer. Ensuite, tant que citoyen, c'est peut-être se donner différents moyens, les différentes ressources qui nous sont disponibles, en écrivant peut-être à des élus ou demander concrètement à différentes instances institutionnelles d'inclure des personnes racisées. Ça peut être aussi de faire partie de certains comités diversité, par exemple, pour justement essayer de s'assurer ou trouver certaines façons de pouvoir inclure les personnes racisées dans les inventaires.
C'est pas pour rien que par rapport aux consultations sur le racisme systémique, vous vous intéressez particulièrement au milieu de la culture et médiatique, puisque Diversité artistique Montréal, ça fait plusieurs années que l'organisme agit justement pour la promotion et la défense des artistes de la diversité. Je me demandais si vous pourriez juste nous dire c'était quoi globalement la mission de Diversité artistique Montréal et comment en fond vous agissez à l'année longue?
Oui, alors donc Diversité artistique Montréal, c'est un organisme qui promeut la diversité ethnoculturelle dans le milieu artistique. Alors il y a 10 programmes qui vont permettre aux artistes de la diversité de pouvoir trouver leur place. Donc on a par exemple un programme d'accompagnement d'artistes, également le mentorat artistique, où on a donc des mentors qui sont bien installés dans leur métier d'artiste et qui vont pouvoir accompagner les mentorés, donc les personnes qui vont vouloir trouver leur place dans le milieu. On a également l'audition de la diversité. Il y a ce qu'on appelle la cellule IDEN aussi, qui est une cellule de conseil qui va aider certains organismes, certaines institutions culturelles à diversifier justement, que ce soit au niveau du public ou également au niveau de leurs employés, d'avoir une meilleure représentation de la diversité. Depuis peu, il y a un pôle recherche qui s'ouvre et justement qui a pour mandat principal la consultation qui est en cours actuellement sur le racisme systémique.
Si moi, en tant que citoyenne, je suis intéressée à participer aux consultations, comment je peux faire?
Alors, c'est très facile. Je suis d'aller sur diversitéartistique.org. Alors, on a un onglet dans Activité qui est la consultation sur le racisme. Et sur cette page, vous avez donc le formulaire d'inscription. Alors, il est disponible dans les deux langues, en français et en anglais. Ça prend 5 minutes à remplir. C'est très rapide. Et puis, donc, à partir de là, on vous contacte pour vous dire si vous êtes admissible ou non. Et d'inclure le plus de personnes possible avec une certaine représentativité également. Et puis, voilà.
Bonjour, rebonjour. On est de retour à Vice Versa avec Marie Chabot-Johnson. Je suis tellement habituée de commencer une émission avec bonjour qu'on dirait que je recommence à chaque fois après qu'on parle d'une entrevue. Donc, c'était nos deux intervenants qui font des consultations pour le forum sur la valorisation de la diversité. Et comme ils l'ont dit dans leur intervention, vous pouvez trouver les informations sur leur site web respectif, mais on va le mettre quand même sur la page Facebook de CKVL FM. Et maintenant, le temps est rendu de vous parler de quelques événements qu'on peut voir dans les environs de Montréal au cours de la fin de semaine qui ont rapport un peu avec justement les thèmes qu'on a abordés, la diversité et l'inclusion. Donc tout d'abord, juste à côté de la radio, à quelques kilomètres, on a un spectacle au Centre Henri Lemieux, au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux, plutôt un très 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 long nom qui parfois a besoin d'abréviation. Le spectacle, c'est l'AOB, c'est un spectacle avec plusieurs musiciens qui vont faire qui vont montrer justement des instruments d'origine des peuples africains. Donc, on parle de djembé, balafon, kora, senza. C'est un peu dans la tendance du centre, justement, de faire des spectacles dédiés pour et par les communautés culturelles, principalement de la salle, avec plusieurs thématiques. Donc là, justement, c'est la thématique de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui est intéressant par rapport à ce spectacle-là qui aura lieu ce samedi 25 novembre, c'est qu'il y a une petite partie aussi éducative. Donc, on peut découvrir les instruments de musique. Donc, c'est l'occasion de découvrir une tradition qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer tous les jours, et même peut-être, je sais pas moi, amener les enfants aussi pour essayer des instruments de musique ou juste les essayer nous-mêmes parce qu'on est des grands enfants dans l'âme. Donc ça, c'est au Centre culturel et communautaire Henri Lemieux à la salle sur Édouard, c'est l'AOB ce samedi. Et si vous avez toujours pas fait vos emplettes de Noël, on a deux beaux marchés de Noël avec des thématiques justement encore thématiques africaines. Le marché de Noël africain a encore lieu ce samedi, il a commencé ce jeudi, c'est Style Afrique Coop plutôt, qui est en collaboration avec le Centre Africa et le Carrefour Afrique, qui en est à sa 5e édition du marché de Noël africain. Donc là-bas, vous pourrez justement trouver des petits produits artisanaux. Donc vous pourrez faire des cadeaux qui sont quand même originaux à Noël et qui sont quand même éco-responsables, tout en ayant un petit côté interculturel, un petit côté voyageur. Vous pourrez toujours dire aussi à votre famille que vous êtes allé dans un voyage puis que vous leur avez rapporté des souvenirs. Mais moi, je trouve que c'est l'occasion aussi de découvrir une nouvelle culture. Vous pouvez aussi aller justement du côté de la Maison d'Haïti qui tient aussi son marché de Noël. Donc, on est dans une autre culture, la culture caribéenne, la culture justement haïtienne. Son marché s'appelle Belle Bagaille et c'est au 3245 Émile Journaud, donc à la Maison d'Haïti, toute la journée de samedi. Et si vous êtes plus intéressé par des conférences, il y en a beaucoup au cours de la semaine prochaine et au cours de la fin de semaine, on vous mettra quelques liens sur la page de CKVL FM parce que maintenant, malheureusement, c'est déjà le moment de se quitter. Donc, ça a été un plaisir encore d'être là à l'émission. La semaine prochaine, on est de retour pour d'autres entrevues et on conclut l'émission avec une traditionnelle bulle témoignage où que j'ai la chance de rencontrer des gens de tout azimut qui nous parlent un peu de leur notion de l'identité. Au revoir et bonne journée à CKVL FM.
Je m'appelle Camila Rodriguez-Séa. La caractéristique qui m'a suivie toute ma vie, c'était que j'étais une femme. Puis, par après, je me suis rendu compte que, aux yeux de certains, j'étais pas québécoise. Mon réflexe par rapport à ça, ça a été de me définir comme québécoise, en opposition. Je me définis beaucoup par mes valeurs puis par mes objectifs dans la vie. Je pense que c'est important de lutter pour quelque chose. En ce moment, moi, je lutte pour diminuer les inégalités. Être montréalais, c'est peut-être le plus simple. D'après moi, c'est quelqu'un qui habite à Montréal puis qui veut bien se définir de cette façon-là. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de construit identitaire aussi fort par rapport à sa ville que par rapport à sa province ou son pays. Certains diraient qu'est Québécois, celui qui veut bien être Québécois. Mais on sait que dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On s'identifie par rapport au reflet qu'on reçoit de la part des autres. Puis si moi, le message qu'on me dit toute ma vie, c'est « t'es pas d'ici, t'as pas l'air d'ici, d'où est-ce que tu viens », nécessairement, je vais aller chercher mes attaches identitaires à l'extérieur. Pendant longtemps, j'ai été assise entre deux chaises. J'étais parfois chilienne, parfois québécoise, rarement canadienne. Mais au fil du temps, j'ai réussi à faire cohabiter la multiplicité de mes identités. Je pense que l'identité, c'est quelque chose qui change, puis qui n'est pas monolithique. On n'est pas une seule chose. Puis certaines personnes ont, d'après moi, la chance d'avoir vraiment de multiples facettes à leur identité ou à leur origine. Et pour moi, ça devrait être une force. En tout cas, c'est ce qu'on dit à la télé, mais c'est pas toujours qu'on reçoit ce message-là de la part des autres. En général, ce qui me rend heureuse, c'est trouver des réponses à mes questions, se débattre, puis discuter, puis argumenter, puis arriver à des réflexions plus élaborées, puis à essayer de mieux comprendre, dans le fond, qu'est-ce qui nous entoure. Je pense que je suis quelqu'un de très curieux, puis ce qui me rend heureuse, c'est d'un peu mieux comprendre comment le monde fonctionne. À part ça, ben, j'ai des hobbies, là. J'aime ça écouter. J'aime ça écouter des séries télé, j'aime ça lire des romans. Je pense que j'ai une petite fibre exploratrice en moi. Là. J'aime bien explorer les choses. J'aime explorer Montréal. J'aime explorer mon université. J'aime ça découvrir des endroits cachés. J'ai un petit fantasme d'habiter dans Poudlard. De me trouver face à face avec un passage secret. J'aime voir ce qui est invisible. Dans mon monde parfait, l'endroit où tu nais devrait pas déterminer la qualité de ta vie puis les possibilités de développement que tu pourrais avoir. Dans mon monde parfait, un enfant qui naît au lac Saint-Jean ou à Outremont peut avoir l'audace de devenir la personne qu'il veut. Puis cette audace-là, je pense qu'elle peut pas se restreindre non plus à ce qu'on veut bien imposer à un enfant. Puis elle doit être partagée par tous les enfants du monde. Ça a l'air un peu cheesy comme ça, mais dès l'enfance, on nous apprend une hiérarchie d'importance par rapport à ce qui se passe dans le monde. Puis on nous apprend que c'est normal, tu sais, qu'il y a d'autres enfants dans d'autres pays qu'on exploite. Puis c'est juste comme ça que les choses vont. Moi, je te dirais, je pourrais souhaiter de détruire, de faire disparaître la faim dans le monde puis de faire disparaître les inégalités sociales. Mais ce que je pense qui serait beaucoup plus efficace pour qu'on vive dans un meilleur monde, ça serait que les gens arrêtent de prendre pour acquis ce qu'ils ont puis réalisent le pouvoir qu'ils ont entre leurs mains, leur pouvoir de changement.
Salut, c'est Charlie Rousseau
et Sandra Lee.
Wow, wow, les gars, c'est notre émission.
C'est nos voix.
Ici la vraie Charlie Rousseau
et la vraie Sandra Lee.
Tous les mardis midi, rejoignez-nous pour votre dose de révélation.
Révélation égale confession croustillante.
Un brin de rivalité.
Mais surtout, une grosse vague d'amour.
Révélation tous les mardis midi sur CKVL.
Quand je vivais beaucoup de stress, j'avais besoin de parler à quelqu'un. Je suis allée voir ma grand-mère, elle m'a écoutée, puis elle m'a montré à faire des tartes. Je me suis découvert une nouvelle passion pour la cuisine. Ça me calme de cuisiner, et parler avec ma grand-mère m'aide à mieux traverser les difficultés.
Pour gérer le stress et les situations difficiles, évite l'alcool, les drogues et les jeux de hasard et d'argent. Il y a d'autres solutions. Parle à tes proches ou à ton intervenant local et visite restencontrôle.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec.
Chaque lundi, de midi à 15h, on se donne rendez-vous pour prendre part au Mini-Mélo.
Ce magazine, animé par nous,
Jean-Paul Sonnecal
et la ricaneuse Christiane Dussard, vous renseignera tout en vous distrayant grâce à leur équipe chroniqueur.
Un magazine de sujets variés, tels que sport, affaires pratiques, nutrition, nature, histoire, lecture, santé et bien-être,
l'actualité du Sud-Ouest et une foule d'autres sujets qui piqueront votre curiosité. Chaque lundi, de midi à 15h, on vous donne rendez-vous pour prendre part au mini-mélo.
Tout cela à la radio du 100,1 CKVL FM ou sur le site ckvl.fm.
Le 100,1 CKVL vous suit partout. Dans votre voiture, en synthonisant le 100,1 FM, partout à travers le monde, grâce à l'application mobile TuneIn et sur le web avec l'écoute en direct, la programmation complète, les concours et plusieurs autres surprises en visitant le centre-1fm.com. Vous pourrez aussi toujours écouter ou réécouter vos chroniqueurs et émissions préférées sur SoundCloud au soundcloud.com/CKVL FM.